C'est fait.
C'est fait. Et donc, un petit oui, recording, c'est bon, c'est lancé.
C'est
OK.
lancé.
Tout va
D'accord.
bien.
Bon, ben, si c'est lancé, on va donc commencer. Hein? Donc, il me revient d'ouvrir ce premier séminaire de l'année du chant lacanien. Mais avant de commencer notre travail, je voudrais évoquer la disparition de deux vieux compagnons de Lacan, hein, qui sont des. Et Kryptimatos, hein, Mustapha Safouan, tout le monde le connaît, c'était un fidèle de l'enseignement de Lacan, hein, traducteur, il était né en Égypte, parlait l'arabe et donc a été le traducteur en arabe de l'interprétation des rêves. C'était aussi un connaisseur de Hegel, il avait traduit aussi en arabe la phénoménologie de l'esprit, hein. Il a formé de nombreux psychanalystes en France et il a tracé, je dirais, un sillon original dans l'orientation lacanienne, son sillon. Christian Simatos, peut-être moins connu, je suis aussi des premiers. Il fut secrétaire de l'école freudienne de Paris, la première école fondée par Lacan. Puis il était membre d'honneur d'Espace Analytique, où il a animé jusqu'à sa mort, qui s'est passé la nuit dernière, un séminaire analytique clinique. Voilà. Donc, il s'agissait quand même de dire un pour nous rappeler ces disparitions qui nous tombent dessus. Hein, parce que ce qui nous tombe dessus, le titre de ce séminaire, bien sûr, on pense le Covid, bien sûr, on pense le terrorisme, on pense le Trumpisme et tous les risques planétaires que font courir ces trois phénomènes. On pense donc à la trame des angoisses contemporaines qui fait de chacun un traumatisé, générant un désarroi qui n'est plus régulé par un autre tenant choc, que ce soit Dieu qui est mort, le roi décapité ou le grand timonier dévalorisé. Hein. En même temps, ce qui nous tombe dessus, c'est quasiment une définition étymologique du symptôme, hein, du grec symptoma, ce qui tombe avec, à rapprocher du latin accéléré, qui a donné accident. Mais ces accidents qui nous tombent dessus, pour qu'ils fassent trauma avant d'être symptômes, il faut quelques petites choses préalables rappelées par l'argument du séminaire. Hein. En deux mots, l'argument parle de Freud qui. Freud, il y a le trauma original chez Freud, hein, toujours trauma originel, toujours d'origine sexuelle. Il y a l'après-coup, dont on parlera beaucoup ce soir aussi, les deux étant caractérisés par le débordement de la pulsion, par la mise en échec des parexcitations. Lacan, évidemment, qui lui ramène le trauma originel dans le langage, à cause des trous entre les dits, qui ont plusieurs occurrences, hein, qui ont des occurrences diverses, que ce soit les trous du corps, les trous de l'objet perdu, les trous dans le réel de la jouissance. Hein. Ces traumatismes étant masqués par la signification phallique dans la névrose et le délire dans la psychose. La rencontre traumatique, c'est la réaction à partir du trauma propre à chaque sujet, singulier, mais toujours rencontré dans la jouissance du corps. Donc, ce séminaire en 8 séances va aller logiquement des premiers événements de corps ce soir à l'après-analyse, à ce qui ne cesse pas de tomber, mais est passé par les voies du signifiant. Cela lors de notre dernière séance le 10 juin. Et entre-temps, nous serons passés par différentes occurrences de rencontres, les bonnes et les mauvaises, celles réservées par les surprises de l'inconscient, la rencontre des corps ou la chute des idéaux, avec à ce sujet une invitée que j'attends, et je pense que je ne suis pas le seul, avec le plus vif intérêt, Mazarine Pinjot en février. Voilà, donc c'était pour tracer un rapide aperçu de notre parcours de l'année. Ce soir, les intervenants donc vont se centrer sur les événements de corps en tant que premier. Hein. Pour une question de logique des interventions, on va suivre l'inverse de ce qui est écrit sur le programme. Donc, nous entendrons donc d'abord Lina Vélez, psychanalyste à côté de Paris, au CMPP d'Orly, psychologue clinicienne. Puis Brigitte Attac, psychanalyste à Reims, si je ne me trompe pas. Et enfin, Marc Strauss, que je ne vous présenterai pas, hein, psychanalyste à Paris. Voilà. Donc, Lina, sans plus tarder, je vous cède la parole.
Merci Jean-Pierre. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais tout d'abord vous parler du symptôme comme événement de corps pour ensuite aborder le premier événement de corps. Je suis partie de la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un événement de corps? Pouvons-nous situer l'événement de corps dans la série des nouveaux concepts introduits par le renversement des perspectives du séminaire en corps? Pour aborder l'événement, il me semble nécessaire de distinguer l'avènement de réel de l'événement de corps. Il y a une proximité entre le mot avènement et le mot événement. Ils dessinent tous les deux quelque chose qui survient. Cependant, quand il s'agit d'événements, cela indique que ce n'est pas anodin, que c'est décisif, que cela a des effets. La psychanalyse se confronte à ce que Lacan nomme, vers la fin de son enseignement, l'événement de corps. C'est quelque chose qui advient dans la temporalité. Il y a une jouissance du corps qui n'est pas fabriquée par le discours, elle est réelle. L'événement du corps est donc du réel, il est ponctuel et le symptôme dure. Je me suis posé la question suivante, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à partir de ce texte. Qu'est-ce qui évolue entre la définition du symptôme comme inscription dans le corps et comme événement de corps? Le cheminement de Lacan part du symptôme comme formation de l'inconscient, déchiffrable, et qui révèle le désir de l'inconscient pour aboutir au symptôme comme événement de corps qui relève, quant à lui, du registre de la jouissance. Avant de parler du symptôme comme événement de corps, il nous semble nécessaire d'évoquer quelques considérations concernant le corps et la jouissance. La définition du sujet à partir de la chaîne signifiante pose la question de la place du corps et de son articulation au concept du sujet. Lacan a passé de longues années à articuler l'ordre du langage avec ce qui reste des jouissances au corps désert des jouissances dont le séminaire encore. Il introduit ce qu'il appelle la substance jouissante. Je cite Colette Solaire, « La substance jouissante, celle-ci est à mettre en opposition avec le sujet et fait du signifiant. C'est une expression qui peut s'associer à une autre affirmation de Lacan. Pour jouir, il faut un corps. Il ne s'agit pas du corps de l'image, il s'agit du corps substantiel qui est posé comme la condition de la jouissance. » Nous remarquons un autre usage du terme de corps. Il y a une série qui commence par le vivant, et quand ce vivant est entré dans le langage, c'est à partir du corps mortifié que se pose la question de ce qui reste comme substance jouissante. Ici, le corps, symptôme, serait-il le corps habité par la substance jouissante? Lacan a longtemps disjoint langage et corps, mais à partir du séminaire Encore et du texte Radiophonie, bien qu'il introduise la conjonction de ces deux termes, il maintient l'idée que le symbolique détermine le corps. Plus le sujet consent à rentrer dans le langage, plus il s'extrait de la jouissance. Lacan ne récuse pas cette conception, mais la complexifie. En affirmant que le signifiant est moyen de jouissance, Lacan cesse de disjoindre signifiant et jouissance. Ainsi, le sujet pâtit du signifiant qui véhicule la jouissance. Ne plus concevoir la dissociation entre signifiant et jouissance nous amène à l'idée que c'est la jouissance qui est véhiculée par la chaîne signifiante. Ceci a des conséquences dans la conception du sujet et du trauma que Lacan développe. Les traumas deviennent symptômes via le signifiant qui détermine la marque des jouissances dans le corps. En laissant une trace, le signifiant localise la jouissance et la condense. Le signifiant commémore la jouissance dans la répétition du symptôme. La répétition engendrée par les traumas concerne l'actualisation d'une scène et le retour de la jouissance. Cette conception nous introduit à une autre définition du symptôme comme événement de corps. Le symptôme comme événement de corps est une définition que nous trouvons dans un écrit de Lacan des années 70, Joyce, le symptôme. Le somme le symptôme à ce qu'il est un événement de corps. La formulation du symptôme comme événement de corps implique toujours la question de la jouissance, du fait que l'on jouit parce que l'on a un corps, et la jouissance comme telle est un événement de corps. Avoir un corps prend sa valeur à partir de sa différence avec être un corps. La jouissance suppose le corps, un corps vivant, comme ce qui n'est pas du registre de l'image spéculaire, mais qui s'est défini comme ce qui s'est joui, non pas d'une jouissance naturelle, mais par le truchement de la langue. Le symptôme événement de corps, c'est la jouissance. Elle est événement parce qu'elle se fixe dans une expérience précoce et qu'elle se réitère dans l'événement. Être traumatisé par l'autre ou par le réel du corps, ce n'est pas du même ordre. Il peut s'agir de l'épouvante devant la jouissance énigmatique de l'autre ou bien de la détresse face à un réel inéluctable. Cette définition de l'événement de corps souligne des événements qui ont laissé des traces dans le corps et qui font symptôme. La partie du corps prise par la chaîne signifiante, constitutive de symptômes, ne cesse de rappeler qu'elle est devenue les lieux désignés d'une jouissance. Ainsi, la scène traumatique s'inscrit dans le corps et s'implique dans le symptôme. Premier événement de corps. Il se constitue à partir des premières expériences de jouissance du corps qui se fixe à un âge très précoce. Lacan critique le terme freudien d'auto-érotisme dans la conférence à Genève sur les symptômes. Lacan dit qu'il ne s'agit pas du auto-érotisme concernant le petit Hans, qui trouve son prétexte de ce que l'enfant découvre d'abord la réalité sexuelle sur son propre corps. Lacan dit que la rencontre du petit Hans avec sa propre érection, son premier jouir, n'a rien d'auto-érotique. Elle est tout ce qu'il y a d'hétéro. Le petit Hans se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et il va l'incarner dans des objets, tout ce qu'il y a de plus externe, à savoir le cheval qui piaffe, le cheval qui tombe, etc. La jouissance qui résulte de cette érection lui est étrangère au point d'être au principe de sa phobie. D'où viennent ces premiers événements? Ils sont issus des mots et des expériences qui se déposent et qui rencontrent le corps. C'est comme si la réponse du corps dans des situations contingentes laissait un premier traçage. Ces traces sont considérées comme des événements de jouissance corporelle. Ceci nous renvoie à la question du trauma. Dans l'inconscient, c'est le traumatisme sexuel qui fait le sujet de l'inconscient. Celui-ci est découvert à partir des symptômes que sont les événements de corps. Pouvons-nous parler des deux aspects dans le traumatisme? Le coup de réel, là où le sujet n'est pas impliqué, ça lui tombe dessus et les séquelles du coup du réel. Ces séquelles ont des résonances différentes en termes des sujets selon la lecture qu'ils font de l'événement réel, selon leur fantasme. Ces premiers événements des corps posent la question de savoir comment se fixe les modes de jouir de chaque sujet. Je cite Colette Soler dans son séminaire Les avènements du réel de l'année 2015-2016. Il y a des objets à jouir qui peuvent varier, mais la modalité propre d'un sujet avec son corps, ce que cela se fixe dans la première enfance et conserve ensuite la même forme. Cela voudrait dire que la jouissance du corps n'est pas déterminée par l'autre du langage. C'est une contingence. Ce n'est pas du même ordre assister à une scène de corps. Ce n'est pas du fait de l'autre qui parle. Lacan a maintenu la consistance imaginaire du corps, mais l'événement de jouissance n'est pas imaginaire. Dans les cas d'Emma que Freud rédige dans l'esquisse, il y a l'énigme de l'effet du souvenir inconscient, d'une expérience infantile de jouissance qui vient effrayer Emma et qui laisse une trace. Freud l'aborde à partir du fameux proton pseudo-hystérique. Le premier mensonge inconscient est le symptôme. Il constitue la réponse du petit sujet à la rencontre avec cette première expérience de jouissance. Il rencontre un premier émoi sexuel et cet émoi engendre un signifiant qui devient symptôme. Emma a peur de se rendre dans des magasins. Elle rend responsable de cette situation un souvenir de son adolescence. Elle a 13 ans. Elle rentre dans une boutique et s'aperçoit que les deux vendeurs rient. Prise de panique, elle sort précipitamment. Elle garde deux idées de cette scène. Les deux hommes s'est moqué de ses vêtements et l'un des deux l'avait attiré sexuellement. L'analyse va mettre en lumière un autre souvenir. À 8 ans, elle était allée 2 fois chez l'épicier. La première fois, ce dernier avait porté la main à travers son vêtement sur ses organes génitaux. Malgré cela, elle y retourne, ce qu'elle s'était reproché ensuite. Quel est le lien entre les deux souvenirs? Le rire des commis lui a rappelé le rire grimaçant de l'épicier. Ce rire est propre à figurer la jouissance énigmatique de l'autre, mais ceci, celle des mains. Mais quelque chose a changé. C'est la puberté. Emma a peur et ne peut plus rentrer toute seule dans une boutique. C'est signifiant du traumatisme et menteur. Il est à la fois évocateur et dissimulateur. Qu'est-ce qui traumatise? L'attouchement ou bien plutôt le moi sexuel qui a fait effraction dans le corps. Nous avons une première expérience de jouissance qui fait événement parce qu'elle échappe. Les traumatismes, c'est l'expérience de jouissance qui présentifie un réel. La question se pose pour les petits sujets de savoir comment faire avec ça, avec l'angoisse. Là où il y avait de la jouissance, vient un signifiant, le signifiant du traumatisme. Ce signifiant se substitue au réel. Lacan a fait rentrer la phobie à partir de 1975 dans la thèse de la coalescence. Alors, c'est une thèse que je trouve assez compliquée, que je ne vais pas vous expliquer, mais il me semble très important d'en parler. La coalescence de la réalité sexuelle et le langage. Et cela voudrait dire que le signifiant jouit. Pour essayer de conclure, à la théorie développée par Lacan, du sujet de l'inconscient, comme effet de la chaîne signifiante, se substitue le concept de par-l'être, ou une autre façon d'appeler l'inconscient, où l'inconscient est une articulation des signifiants qui véhiculent la jouissance et inscrivent le lieu où cette dernière s'éprouve, le corps. Le passage du sujet à l'être s'effondre sur le fait que le sujet est supposé, tandis que l'être est de l'ordre du réel et ne va pas sans le corps. Cela explique peut-être le changement de perspective de Lacan concernant la définition du symptôme comme façon de jouir de l'inconscient et comme événement de corps. Merci.
Merci Lina de cet exposé. Juste une question technique que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez bien entendu tout ce qu'elle disait? Parce que moi j'avais une très mauvaise réception. Est-ce que c'était une mauvaise émission de sa part ou est-ce que c'est une mauvaise réception de chez moi?
Pour ma part, Jean-Pierre, j'entendais très très bien.
Moi, j'entendais d'accord, très bien aussi. Par contre, toi, Jean-Pierre, quand tu parles, par moments, ça bug un petit peu.
Ça bug. Bon.
Il y a une mauvaise réception et une mauvaise émission.
Ouais. D'accord. Ok. Bon, j'ai tâché de résoudre ça. Pendant que oui, je passe la parole à Brigitte Attat, donc, pour cette deuxième intervention.
Bonsoir. On pensera à suivre quelques clichés, qu'elle répète l'événement, mais qu'on y regarde de plus près. Ce n'est pas l'événement, mais un nœud qui se refait là. Et c'est ce que ce nœud en sert, qui proprement ravit, mais là encore, qui ? Cette citation est extraite de l'hommage fait à Marguerite Duras du Ravissement de l'Olvestein, un texte écrit par Lacan en 1965, avant donc qu'il ait formalisé le nœud borroméen. Ce nœud pourtant, comme il le précise en 1973 dans les noms dupes R, ne date pas d'hier, mais sa portée, dit-il, méritait qu'on y insiste, ça veut dire ne pouvait pas apparaître tout de suite. Et il ajoute, ce n'est pas tellement ce nœud qui est important, c'est son dire. Autant dire qu'un événement, quel qu'il soit, événement au sens premier de ce qui arrive, n'a de portée que d'être dit. C'est le dire de l'événement qui fait le nœud. Pourquoi ne pas entendre ce temps qu'il faut pour que prenne sa portée ce qui était là d'avant, comme le temps qu'il faut pour que le dire produise un effet d'écriture. Ainsi Lacan, montrant les traits écrits au tableau, en quoi consiste son écriture du nœud, ce qui du nœud peut s'écrire au tableau, en vient à dire que c'est dans cette écriture même que réside l'événement de son dire. Alors, sans doute, ce nœud était-il là d'avant, comme il le dit, mais c'est l'insistance de son dire qui a produit la trace, le ravinement dans le réel, par lequel il a pris corps, disons, qu'il s'est écrit. Et l'invention une fois faite, Lacan s'emploiera jusqu'à la fin à en faire et refaire l'inventaire, autrement dit, à lire et relire le nœud. Ce qui s'écrit dans l'analyse a peu de choses à faire avec la graphie, ni avec l'inscription, ni non plus avec le roman. Plutôt, ce qui s'écrit relève-t-il de l'insistance du dire, celui de l'association libre, celui de l'interprétation, et des effets de ravinement de ce dire dans le signifié, c'est-à-dire dans la jouissance, puisque le signifié du condit, c'est la jouissance. Effet réel, donc, qui laisse une trace, mais effet qui n'est pas que réel. En effet, il ne s'agit pas dans l'analyse de reproduire l'événement, qu'il soit événement de l'histoire ou événement de corps, comme les pratiques cathartiques le préconisent et même aujourd'hui toutes ces techniques comportementalistes. Mais ce dont il s'agit, c'est de refaire le nœud, disons le lire autrement, de lire autrement ce qui s'était écrit de l'événement de corps, le lire avec ce qui s'en écrit de son dire dans l'analyse. Et le nœud, bien que réel, ne s'écrit pas avec la seule dimension du réel. Ceci pour rompre avec l'idée que l'abord du réel serait le nec plus ultra de l'analyse, disons sa terre promise. Pour reprendre, ce chiffre a noué autrement, que Lacan convoque dans son hommage à Marguerite Duras, je dirais qu'il faut se compter trois. Se compter trois, les trois dimensions du nœud, imaginaire, réel et symbolique, plus une, celle qui reste oubliée derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend et qui les noue. Ce qui s'écrit dans l'analyse, dit Michel Bousséroux, ce sont ces nouages entre le réel, le symbolique, l'imaginaire et le symptôme et leur transformation. Un réseau se repère, disait Lacan dans le séminaire 11, par le fait qu'on retourne, qu'on revient, qu'on croise son chemin, que ça se recoupe de telle façon que ça échappe au hasard. La parole d'association dite libre n'est en effet pas si libre que cela, les analysants le savent, révélant de par l'insistance de ces redites la force d'attraction, mais aussi de répulsion, des points de fiction de jouissance qui déterminent les lignes d'air de sa gravitation. Ainsi, le tracé en boucle de ce qui se dit, voire de ce qui se tait, ramène le sujet, tournant en rond, vers l'ornière d'une satisfaction courte et piétinée. Ce qu'il retrouve alors, tel l'homme perdu dans le désert, c'est la trace aux dépens de la piste. Ce sont ces traces d'écrit, ces ravinements dans le signifié, ces ornières faisant le lit de la jouissance, qui sont à lire dans l'analyse. Dans La maladie humaine, Ferdinando Camon nous ramène sur les traces de l'événement qui le tient prisonnier. Ce roman est un témoignage de son analyse de l'entrée à la sortie. Mais, nous le verrons, ce n'est pas à ce niveau d'écriture que sa lecture nous convie. Contrairement au récit de Marie Cardinal, Les mots pour le dire, dont j'ai déjà parlé, celui de Camon contient peu de matériel biographique, peu d'historisation. On ne sait pas grand-chose de lui, finalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu dans sa cure, qui, comme celle de Marie Cardinal, dura 7 ans, à peu près à la même époque d'ailleurs, mais que son témoignage concerne essentiellement l'historisation de son analyse. Si pour Marie Cardinal, il fallait procéder dans la lecture du texte, un travail de dégagement, de déblaiement, comme dans la sculpture, pour faire apparaître ce qui s'est écrit des moments cruciaux de son analyse, il n'en est pas de même pour le récit de Camon, où ils apparaissent comme à fleur de texte. D'autant que Camon ne se contente pas d'historiser son analyse, mais qu'il en extrait les éléments déterminants qui sont autant de traces à lire de ce qui s'est écrit dans son expérience même, non sans effet réel, de remaniement de jouissance et de jouissance. Et, chose assez rare, il me semble, il va jusqu'à donner nom à certaines séances cruciales, celles qui ont fait événement, un nom qui peut paraître cocasse, mais qui n'est pas sans témoigner de sa singularité, mais aussi du point où il en est quant à son désir et à sa jouissance. S'il commence, premier chapitre, par la rencontre avec lui, qu'il écrit en majuscule, une rencontre grosse d'effets transférentiels présentée comme autant de fragments d'un discours amoureux, et se termine, dernier chapitre, par ce qu'il nomme la fin du magicien, nous dirions chute du sujet supposé savoir, le récit ne suit aucunement une voie chronologique, ni même logique, entre ces deux points. Plutôt tourne-t-il autour d'une scène de jouissance, dont on peut dire que le récit tout entier est la gravitation. Et c'est cette gravitation même qui creuse, ravinement, les entours du trou où cette scène, ravissement, peut apparaître. Construction du fantasme, donc, où la mise en scène, une fois débarrassée de ses oripeaux, de sa fiction, c'est-à-dire de la scène, dévoile la mise, c'est-à-dire le mode de jouir, propre au sujet. Encore faudra-t-il qu'il se noue au mode de dire qui est le sien propre pour produire et le lisible et l'illisible. Quelle est cette scène et de quel mode de jouir est-elle la mise en scène? Elle s'intitule « La mort du partisan » et Camon la place à l'avant-dernier chapitre, celui qui précède la fin du magicien. Ce qui ne veut pas dire que dans son analyse, ça soit passé ainsi. Et d'ailleurs, juste avant l'évocation de la scène, Camon précise « Parfois en cours d'analyse, un souvenir me venait à l'esprit, que je ne savais pas trop à quoi raccrocher. Comme ce souvenir se répétait, je pouvais le raccrocher à n'importe quoi. » Insistance du « un » donc, et élucubration de savoir. L'événement qui sous-tend la construction de la scène se passe dans l'Italie fasciste, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'enfant Camon a 6 ans. Un partisan a été capturé par les fascistes et en attendant son exécution, il est exposé sur la place aux yeux de tous, accroupi devant une murette. Sûr qu'il va sauter sur ses pieds et s'enfuir, se dit l'enfant. Mais l'homme ne s'enfuit pas. Le garde fasciste, qui fait les 100 pas, s'arrête de temps en temps devant lui et lui brûle le nez avec sa cigarette. Sûr qu'il va se lever et lui casser la gueule, se dit l'enfant. Mais l'homme ne bouge pas. Au moment d'être fusillé, il ne tient pas debout et reste en tas au pied du mur, sans réaction. Mon souvenir, dit Camon, s'arrête là. L'exécution ne tient aucune place. J'ai appris que de tels vides dissimulent souvent une présence. L'exécution a eu lieu, mais rien n'a changé, car le partisan est resté tel qu'il était, accroupi par terre, la tête basse, les bras pendants, sans même qu'on puisse dire si les balles l'ont atteint. C'était comme tiré sur un tas de chiffons. Cette vision, cet homme qui meurt comme un tas de chiffons, sans une plainte, sans réflexe, sans soubresaut, était la vision la plus effroyable de toute la scène et c'est pourquoi je l'ai effacée de ma mémoire pour n'en conserver aucune trace. Cette scène donne, en quelque sorte, le point de gravité autour duquel tournent d'autres éléments qui valent comme autant de S1, qui ne représentent pas le sujet, mais la jouissance. L'oncle Giulio, fort comme un taureau et qui portait bas l'entrejambe, tous ces termes chez Camon sont très importants, capturé par les Allemands et frappé à coups de crosse sur le nez, puis chargé sur la camionnette comme un sac de patates. Le coup sur le nez l'avait rendu docile. Le taureau qu'on met à genoux, avec une simple pince qui lui mord la cloison nasale, la même pince qui sert à le castrer et à en faire un bœuf, un agneau, un poussin, à en faire donc une chiffe molle. Autant d'événements de l'histoire qui sont aussi événements de corps, qui marquent le corps de l'enfant et font le lit des symptômes à venir. Car le narrateur est mal en point, nez taraudé, hémorragie bien phlicéenne, ventre douloureux, épine dorsale qui se bloque, extrasystole, etc. Autant de douleurs fulgurantes qui lui sautent dessus sans sommation et le mettent à terre. Un homme qui meurt comme un tas de chiffons donne le postulat fantasmatique dont le sujet s'assure. Au-delà des fictions héroïques élucubrées par l'enfant, souvenez-vous, il va lui casser la gueule, il va se lever, etc., il va s'enfuir, il en sert une fiction de jouissance avec un X qui détermine tout autant l'événement de corps que la défense du sujet. En effet, on peut devenir un tas de chiffons sous les coups ou un sac de patates. Mais on peut aussi se faire un tas de chiffons pour se mettre à l'abri des coups, à l'abri de ce qui vous tombe dessus, que ce soit les coups du réel, celui de la castration, celui de la mort aussi, ceux des événements de l'histoire, mais aussi ceux des mots. Car les mots ont une puissance de frappe, ils peuvent, dit Camon, se retourner contre vous. C'est pourquoi en séance il se tait, protégeant sa tête et ses entrailles, jusqu'à ce que le premier mot lui échappe en catimini. Pour Camon, l'analyse est tout autant le lieu où il se met à l'abri que le lieu où il craint de prendre des coups, de voir se retourner contre lui tout ce qu'il dit. Se mettre à l'abri des coups, dit Camon, est un terme fondamental en rapport avec ce qui me fonde, parce que je suis d'origine paysanne et que les paysans se mettent à l'abri des orages. Ça cogne, disent-ils. Si vous m'ôtez ces mots-là, je ne tiens plus debout, c'est comme ôter les piliers sur lesquels se décharge le poids d'une coupole, des mots qui vous tiennent debout donc. Car l'événement premier, disons d'origine, leur zéro, c'est cette perte du vivant tombée sous le coup du langage. C'est cela qui nous est tombé dessus et dont notre corps, dès lors, porte la marque indélébile, bien qu'illisible. En vérité, conclut Camon, l'homme est une maladie et il n'est pas de remède à la maladie humaine. Nous vivons plongés dans la maladie et transmettons la maladie en transmettant la langue. La langue est le virus de cette maladie qu'on appelle l'homme. Voilà.
Merci beaucoup Brigitte pour cette brillante intervention. En tout cas, la conclusion que tu donnes dans la bouche de Camon est sacrément lacanienne. Hein. Ouais. L'homme affecté ouais. par le langage. Hein. Ouais. Voilà. Et tu terminais aussi auparavant sur la question de l'origine. Hein. On va retrouver cette question avec Marc. Avec Marc. Pas sûr que ce soit exactement la même hypothèse, mais on va voir. Hein, ce sera le nœud de la discussion. Donc Marc, je te passe la parole maintenant, sans plus tarder.
Merci Jean-Pierre et bonsoir à tous ceux qui sont là. Alors en exergue de mon propos, je vous propose cette phrase de Lacan. Je pose à votre méditation. On ne guérit pas parce qu'on se souvient, on se souvient parce qu'on guérit. Qu'est-ce qu'un premier événement de corps ? Lacan nous a appris à traduire événement de corps en symptôme, puisque c'est exactement comme ça qu'il le définit. Ça nous a été rappelé à l'instant par Lina. Donc, le corps est affecté par le signifiant ou les signifiants et sécrète du symptôme. Premiers événements maintenant. On y entend d'abord, bien sûr, premier au sens chronologique, le Big Bang du sujet qui naît du choc du langage et du corps. La question des origines, ça émoustille toujours. Mais où l'attraper, cette origine ? Il me semble, je crois que ce n'est pas pour rien que premier est au pluriel dans notre titre. Alors, est-ce que ce premier, c'est le tout début, avec le traumatisme de la naissance, plus tard, avec le sevrage ? Est-ce le premier mot, le premier jeu, les premières érections, les premières angoisses, l'effet de la castration, celui de la séduction, du premier baiser, la première fois tout court, etc. Je pourrais passer tout le temps de mon exposé à égrener toutes les premières fois qui font une vie, et elles ont toutes fait l'objet d'élucubrations, aussi bien poétiques que savantes, jusque dans la psychanalyse. On s'y perd. D'où ma pirouette. Tous ces événements, tous ces premiers événements, ont en commun d'être premiers au sens mathématique. Ils ne sont divisibles que par un ou par eux-mêmes. Ils se distinguent dans leur singularité absolue, en même temps qu'ils ont une fonction identique. Ils sont en fait la manifestation même de la structure. J'entends par là qu'il se passe quelque chose qui noue le réel, l'imaginaire et le symbolique, pour constituer le savoir inconscient. Savoir inconscient, d'où le sujet se soutiendra de la supposition de son unité perdue. De ce point de vue, les événements de corps perdent toute valeur temporelle. Du premier au dernier, ils se valent. Ou même, à l'occasion, il va s'en créer de nouveaux, à l'occasion de telle ou telle rencontre. Cela dit, la psychanalyse a pris son départ du symptôme hystérique de conversion, un événement de corps qui répond de façon bizarre, inadéquate, à un autre événement de corps, lui provoqué par une séduction sexuelle. Il s'est passé quelque chose qui a débordé le sujet, dont il ne peut rien faire et dont il ne veut rien savoir, et qu'il cherche à oublier, à esquiver, qu'il refoule. Mais cet effet, en même temps, le tient et le retient à travers le symptôme. Freud, on le sait, avec l'aide de Breuer, a renoncé à l'hypnose pour que le sujet soit présent à la démarche de remémoration et d'abréaction du trauma. Mais il y a une hystérie qui, plus que les autres, lui a démontré que s'il s'est passé quelque chose à l'origine de son symptôme, ce n'est pas ce qu'elle croyait, ni ce qu'elle se racontait. Il s'agit bien sûr de Emma Eckstein, dont Lina nous a parlé tout à l'heure. Ça, vous connaissez le cas maintenant, il vous a été rappelé, rafraîchi. Il est question d'Emma dans l'Esquisse, texte de 1895-96, que, je le rappelle, Freud n'a pas publié. On le sait, cette brave Emma ne peut pas entrer seule dans un magasin et elle attribue cela donc à un événement qui s'est produit quand elle avait 12 ans, au moment du déchaînement de la tempête hormonale de sa puberté. Elle se trouvait donc dans un magasin où travaillaient deux commis, dont un qui lui plaisait sexuellement. Elle les voit ricaner. Elle pense qu'il se moque de ses vêtements, s'enfuit et désormais ne peut plus entrer seule dans un magasin. Je passe sur tous les détails extrêmement précieux que donne Freud, mais à l'analyse, il s'avère que cette scène en cache une autre, qui a eu lieu quand elle avait 8 ans, ça nous a été rappelé aussi, toujours dans un magasin, où c'est cette fois le patron qui, avec un drôle de rictus, lui fout carrément la main au panier à travers ses vêtements. Elle y est retournée une fois, mais se sentant coupable, elle n'a pas recommencé. Et donc, tout va bien jusqu'à l'épisode de ses 12 ans où se déclenche le symptôme. Nous connaissons les schémas de Freud dans l'Esquisse quand il se penche sur les processus de substitution qui font le lien entre les deux épisodes. Et nous savons que Lacan l'a tiré l'après-coup. Cette image, je vous recommande de vous y intéresser de près. C'est un personnage assez formidable qui a en fait servi d'objet d'échange, pour ne pas dire de jouet, entre Freud et son alter ego bien-aimé, Fliss. L'un s'occupe par la parole des hémorragies du bas-ventre et l'autre lui bricole le nez avec suffisamment de détermination pour le lui casser d'ailleurs, pour faire des dégâts. Des dégâts sur la patiente, elle en restera défigurée à vie, mais aussi sur l'amitié entre les deux hommes, et aussi sur la théorie de la séduction elle-même, avec l'abandon par Freud de sa neurotica en septembre 1897, célèbre lettre à fils. Remarquons qu'il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont Freud présente ce cas dans l'esquisse. En effet, il est bien placé, Freud, pour savoir qu'à 8 ans, elle n'était pas du tout aussi innocente qu'il le dit dans le texte. En effet, il évoque dans sa correspondance avec Fliss ses masturbations infantiles et en plus, il n'explique pas, il n'interroge pas pourquoi elle y est retournée une fois avant de renoncer. Bref, si, avec l'abandon de la neurotica, si elle n'est pas hystérique parce qu'elle était abusée, mais s'imagine avoir été et être toujours abusée parce qu'elle est hystérique, si la séduction sexuelle devient un fantasme, la question devient celle qui va occuper l'ensemble du monde psychanalytique jusqu'à aujourd'hui. Qu'y a-t-il de réel dans ce qui s'est passé et qui a déterminé le rapport du sujet à l'amour et au sexe? Si les souvenirs sont des fabrications destinées à cacher d'autres souvenirs, qu'est-ce qu'il y a au départ? Freud se saisit de la question et il va chercher la réponse chez celui, peut-être hystérique, qu'il a sous la main, mais en tout cas qu'il connaît le mieux, à savoir lui-même. Ainsi, en 1899, il consacre un article aux souvenirs d'écran. C'est bien pour Zoom, les souvenirs d'écran, je trouve. Nous connaissons l'histoire. Je l'appelle la petite maison dans la prairie, où une fillette est molestée, symboliquement déflorée par deux méchants garçons que sont Freud et son cousin, le frère de la victime. Ce drame infantile se résout dans le ravissement que procure un morceau de pain noir distribué aux enfants par une paysanne habile à manier le couteau. Or, il s'avère à l'analyse de Freud par Freud que ce souvenir a été fabriqué bien plus tardivement et en 3 temps, à 17 et à 20 ans et 3e temps au début de sa vie adulte. Ce sont à chaque fois des rêveries qui se sont produites dans le même lieu, dans le pays enchanté de son enfance auquel il a été arraché à cause de la faillite paternelle. Des rêveries, à 17 et 20 ans, d'une satisfaction obtenue sans peine. C'est ce qui aurait pu être si ça ne s'était pas passé comme ça. À 17 ans, une satisfaction érotique dont Freud ne cache pas qu'elle est joyeusement masturbatoire. Et à 20 ans, une satisfaction matérielle. À 20 ans, âge dont il dit « j'appartenais déjà tout entier à mes livres ». Impressionnant. La coalescence des deux fantaisies de satisfaction fabrique un souvenir en piochant dans le stock d'images en réserve dans la mémoire. Et cette coalescence est permise par des mots qui sont des restes mnésiques placés au carrefour de toutes les scènes. Par exemple, vous le savez, le jaune de la robe de la belle de ses 17 ans, qui est aussi le jaune des pissenlits de la prairie et le jaune des fleurs alpines plus tardives. Cela dit, si un souvenir est fabriqué, se pose encore et toujours la question de sa part de véracité. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans tout ça? Il y a le plaisir, bien sûr, le plaisir éprouvé à cueillir des fleurs, à les arracher à la fille, à manger du bon pain. Mais là encore, quelque chose cloche, que Freud esquive d'une façon qui laisse penser qu'il se moque un peu de nous quand même. En effet, contrairement à ce qu'il dit du rêve, où il insiste sur le fait qu'il ne faut laisser aucun élément de côté, il considère certains éléments de ce souvenir comme sans importance. Ils y figureraient simplement parce qu'ils étaient dans la réalité de la scène, mais ils n'ont pas de fonction. Pourtant, les deux éléments ne sont pas n'importe lesquels. Premièrement, le fait qu'ils s'y mettent à deux sur la gamine, et deuxièmement, le fait que les femmes sont deux. Je vous cite le passage qui est quand même drôle. Pourriez-vous, c'est Freud qui parle à lui-même, Pourriez-vous donner un sens à cette aide qui vous est apportée par la défloration ? Ou encore au groupe de la paysanne et de la bonne d'enfant en haut devant la maison ? L'interlocuteur répond « Je ne crois pas ». À quoi Freud répond ? Freud, l'analyste, l'interprète, répond « La scène d'enfance ne sert donc pas complètement d'écran au fantasme. Elle ne fait que s'étayer sur elle en quelques points. Cela parle en faveur de l'authenticité du souvenir d'enfance. » Nous y reviendrons. En attendant, pour résumer le pas de Freud, il montre que les souvenirs, quels qu'ils soient, sont fabriqués à un moment précis et dans un but précis. Cela à partir du matériel mémoriel et des associations langagières. Et leur fonction est très simple. Il s'agit d'innocenter le sujet. L'innocenter de la jouissance que ces souvenirs recèlent, l'innocenter en déplaçant la scène et la satisfaction dans l'enfance, un temps où elle n'était pas supposée, la jouissance, avoir cours. Avec la séduction, Freud justifiait cette innocence première. Mais l'épisode Emma a quand même fait symptôme dans son aveuglement. Je l'ai dit, il a mis à mal sa passion pour fils, mais l'enjeu intime de cette affaire s'est répété pour Freud, avec Jung d'abord, Ferenczi ensuite. Pour le premier autour de la question de la réalité sexuelle de la libido et pour le second autour de la question de la séduction traumatique. Et ça a été la cause de la rupture pour les deux, avec les deux. Et cette question a tracassé Freud jusqu'en 1915 quand il a rédigé les observations sur l'amour de transfert. Le rêve de l'injection faite à Irma, que nous connaissons par ailleurs, montre combien la question de la faute hante Freud. Mais il lui faudra attendre, non pas 1899, l'histoire de la petite maison dans la prairie, mais 1901 et la psychopathologie de la vie quotidienne pour arriver au bout de sa quête. Encore un souvenir écran de Freud, qu'il nous précise avoir analysé à 43 ans, en 1899 donc. Il le présente comme son plus ancien souvenir. Et il est donc une illustration de cette levée complète de l'amnésie infantile dont il fera jusqu'à la fin de son œuvre le critère indispensable pour considérer une analyse achevée ou terminée. Il peut en effet, Freud, dater ce souvenir avec précision entre ses 2 ans et demi et ses 3 ans, à cause du lieu, ce lieu enchanté de son enfance, et à cause des protagonistes qui y figurent. Alors, les personnages, je vous les présente, vous vous rappelez probablement, son frère, 20 ans de plus que lui, du genre assez moqueur, sa bonne, une séductrice qui entretient des relations troubles, quoique assez différente évidemment avec les deux garçons, et qui a disparu après que ses vols aient été démasqués. Sa mère, qui après une période d'absence revient notablement amincie, mais lestée d'une sœur. Dans ce souvenir, le petit Sigmund enrageait et exigeait que son frère lui montre l'intérieur d'un coffre, avant que soudain la mère n'apparaisse dans sa sveltesse. En effet, comme la mère avait disparu, il soupçonnait son frère, je cite Freud, de lui avoir fait subir la même chose qu'à la bonne, c'est-à-dire non seulement de l'avoir fait coffrer, mais de l'avoir pourvu évidemment d'un coffre à bébé. Bref, l'Œdipe, ce qu'on peut appeler comme ça, même si Freud ne l'appelle pas encore comme ça, a en tout cas une situation qui cherche à tout prix à découvrir le savoir sur la jouissance sexuelle qui lui échappe, mais qui n'échappe supposément pas à son frère. Ce qui importe pour Freud dans ce souvenir premier, qui signe donc, je le répète, la levée de son amnésie infantile, est d'avoir reconstruit dans sa propre histoire avec les premiers partenaires de sa vie, les partenaires fondamentaux, le scénario inaugural où se met pour lui en scène la jouissance comme sexuelle. Mais là encore, qu'y a-t-il de réel dans ce souvenir? Il est frappant que Freud, cette fois, n'en interroge pas la véracité. Il le présente au contraire comme incontestable. Probablement parce que ce souvenir-là ne se supporte d'aucune innocence. Il y est question de sa propre colère et de sa propre exigence à vérifier le savoir. C'est là que se sont pour lui imprimées les premières traces mnésiques qui vont porter ce qui pour lui fait et fera signe de jouissance. Traces dont nous pourrons suivre les déplacements dans les remaniements successifs de ses fantaisies personnelles et théoriques. Insistons, qu'il y ait pour chacun une scène originaire ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé pour Freud dans la prairie ou à 17 ans, ou qu'il ne s'est rien passé pour Emma à 8 et à 12 ans. Et s'il est assez facile de deviner quoi, je souligne quand même que est présente dans tous ces épisodes, sous une forme différente, mais est présente une violence certaine. Ainsi, ce qui s'est réellement joué dans le souvenir ne cessera jamais d'être une question pour Freud. Avec entre autres, la scène du coït à Tergo de l'homme au loup, que Lacan reprendra lui-même indéfiniment pour finalement la subvertir radicalement. Alors, pour arriver à la conclusion, je vous propose de nous reporter directement à la réponse de Lacan, la réponse dernière de Lacan, que je considère comme dernière, à Bruxelles, le 26 février 1977. Il y fait une conférence qui a été publiée dans Quarto, une conférence où il prend son départ de ses premières hystériques de Freud pour arriver au réel de ses nœuds. Une conférence qu'il évoque dans la leçon immédiatement suivante de son séminaire, la leçon 8 du 8 mars 1977 de l'Insu. Et dans cette conférence, il reprend les thèmes de la conférence de Genève de 1975, mais sur un mode pour le moins iconoclaste. Lacan, loin de dire en 1977, donc à Bruxelles, loin de dire les choses avec des fleurs, dans un geste qui évoque le sicut palea de saint Thomas, Lacan renverse la table et s'en prend très violemment aux élucubrations freudiennes et des psychanalystes. Il y dénonce leur chiquet, leur boursouflure, et qui, plus que Lacan, a usé d'un style gongorique jusqu'à s'en glorifier à l'occasion. Et finalement, il qualifie la psychanalyse d'escroquerie, pas moi. Pour lui, le réel auquel nous avons affaire, ce sont les mots où la sexualité est prise, alors que, je le cite, « alors que l'idée de représentation inconsciente est une idée totalement vide ». Un peu plus loin, il dira « folle ». Sans ménagement, il corrige Freud, qui n'a rien compris à l'inconscient, dit-il. Et encore une fois, je le cite, l'inconscient est un sédiment, je ne prends pas le temps de jouer sur le mot sédiment comme il l'a fait avec le condiment à l'occasion, et l'inconscient est un sédiment du langage. L'inconscient n'a de corps que de mots. C'est ça l'inconscient. On est guidé par des mots auxquels on ne comprend rien. C'est là qu'est notre pratique, c'est approcher comment des mots opèrent. L'essentiel de ce qu'a dit Freud, je cite toujours Lacan, l'essentiel de ce qu'a dit Freud, c'est qu'il y a le plus grand rapport entre cet usage des mots et la sexualité. La sexualité est entièrement prise dans ces mots, c'est là le pas essentiel que Freud a fait. Et le reste donc est escroquerie. Lacan avait écrit « Mensonge » en 1976 dans la célèbre préface à l'édition anglaise des écrits. Mais là, il dit « Escroquerie et proton-pseudos, c'est la même chose. » Freud dit la même chose que ce que j'appelle d'un nom français. Il ne pouvait quand même pas dire qu'il éduquait un certain nombre d'escrocs. Il ne pouvait pas le dire, mais à mon sens, c'est bien la question que Freud s'est posée en 1915, dans cet article d'observation sur l'amour de transfert, où Freud prend le soin de préciser que c'est pour les analystes qu'il écrit et pas pour le public. Pour finir, je laisserai Lacan conclure. Du point de vue éthique, c'est intenable notre profession. C'est bien d'ailleurs pour ça que j'en suis malade, parce que j'ai un surmoi, comme tout le monde. Je vous remercie.
Bon, eh ben, nous te remercions, nous, de cette intervention qui décoiffe, si j'ose dire, hein, reprenant Lacan. Alors, rappelez aux participants que pour intervenir, il faut lever la main, que pour lever la main, il faut aller chercher... en général, en bas à gauche de son écran, la petite main, et qu'elle s'affichera sur à droite de mon écran, et je vous donnerai alors la parole. Hein. Pour poursuivre un petit peu avec Marc, en attendant que vous soyez prêts, les protons pseudo dont tu parles en philosophie, c'est des erreurs initiales souvent infimes, mais dont les retombées sont multipliées par le temps. Hein. Donc, c'est peut-être vrai pour la psychanalyse, mais c'est vrai pour chaque sujet. Hein. Freud en a fait même, comme ça a été rappelé, hein, le mensonge initial de l'hystérique, ce fameux proto-pseudos hystérique. La question que je voudrais te poser, il me semble que tu y as répondu, mais est-ce que tu pourrais le dire comme ça, tous les événements de corps dits premiers sont-ils en fin de compte des protons pseudos, hein, c'est vraiment... n'a-t-on pas tort de courir après? Simplement, faut-il...
Non. Les événements de corps ne sont pas des protons pseudos. Ce qui est protons pseudos, c'est ce que le sujet s'en raconte. Mais qu'il y ait eu un réel d'une jouissance dans les événements de corps, ça n'est pas contestable. Simplement, ce réel est insaisissable, il est impossible à imaginer, il est impossible à symboliser, et la sexualité brode une histoire autour de ça.
D'accord.
La sexualité, l'historisation, le mythe, il y a une formule de Lacan, alors je ne l'ai pas retrouvée, mais il parle quelque part d'insanité mythique, d'obscénité mythique. Il y a vraiment, c'est très frappant, en 77, cette radicalité totale. Pas de salade, pas d'histoire. C'est-à-dire que même l'histoire des 8 ans, c'est encore des salades. Même l'histoire de la prairie, c'est encore des salades. Ce qui n'est pas de la salade, c'est éventuellement le souvenir écran de Freud, le dernier, celui de ses 2 ans et demi, 3 ans, au moment de la naissance de la sœur. Et on voit comment la structure cet appareillage, finalement, est implicite dans le restant de sa vie, avec Freud, avec Jung, avec Ferenczi, et comment il va finalement arriver à s'en détacher, au grand désespoir d'ailleurs de Ferenczi, qui ne s'en remettra pas. Alors que c'est, puisque j'ai la parole, je continue, c'est très différent avec Abraham. Abraham n'est pas du tout dans cette position de fraternel, impossible, et ils échangent tranquillement entre eux, rien de passionnel, jusqu'à la mort prématurée d'Abraham. C'est très étonnant.
D'accord. J'avais d'autres questions pour les invités, mais il y a Colette Solière qui veut peut-être intervenir sur ce point-là. Colette, tu as le micro.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Simplement, oui. Mais en tendant.
Oui. Bah, je suis pas sûre de bien saisir la courbe de l'exposé de Marc, qui commence par mettre un peu en question les événements de les événements de corps. Et puis, au fond, ce que tu mets en question, c'est toute la fabrication imaginaire de représentations, de romans que l'on greffe sur tout ce qui ressemble à du réel.
Mmh.
Bon, ça, c'est 20 ans de travail de Lacan.
Oui,
mais plus. Quand même, et plus, oui. Quand même, ça aboutit à la fin, dans ton exposé même, ça aboutit à la fin qu'il y a quand même des scènes originaires avec des traces mnésiques.
Mm-hmm.
Et s'il y a traces mnésiques, il y a association possible à partir des traces.
Bon.
Et donc il y a l'événement fait trace.
Oui, l'événement bien sûr.
Fait trace. Et ça revient à dire que l'analyse, ça n'est pas une biographie, ça n'est pas affaire du, c'est pas la biographie, l'analyse, effectivement. Hein, on est d'accord là-dessus, je crois. Alors quand Lacan dit la psychanalyse c'est une escroquerie, il ajoute c'est la même que celle de la poésie.
Oui.
C'est important à dire parce que ça quand même ça nuance considérablement la notion d'escroquerie. Ça veut dire en effet que l'inconscient c'est fait de mots. C'est fait de mots qui ont des effets, qui sont coalescents à de la jouissance. Et donc finalement c'est avec ça qu'on travaille. Et c'est vrai que c'est un problème constant dans la psychanalyse. La part du récit biographique, la part de ce qui se raconte, de ce qu'on se raconte à soi-même, et pour accrocher des choses qui sont dures comme le comme la table, c'est difficile. Bon, donc je voulais faire cet écho-là. Je voudrais faire une remarque aussi, je suis surprise, il y a trois exposés qui parlent des événements de corps, et aucun n'a pensé à se poser la question, savoir si tous les événements sont de corps. Mais bien sûr que non. Il y a des événements qui nous concernent dans la psychanalyse et qui ne sont pas de corps. Et le premier événement qui n'est pas de corps, c'est les événements de la causation du sujet. Ça commence au Forda. Et il faut bien se poser la question du rapport entre ces deux types d'événements. Parce que quand il dit événement de corps, Lacan, c'est assez tardif. C'est assez tardif. Pourtant, l'idée que le symptôme est jouissance, il l'a très tôt. L'instance de la lettre, le symptôme, des signifiants substitués à partir du signifiant du traumatisme. On pourrait dire qu'il avait déjà le signifiant du traumatisme, on pourrait se dire c'est déjà l'événement de corps. Et pourquoi il ne l'a pas dit ? Comme ça. Ben, il ne l'a pas dit comme ça, je crois, parce que à l'époque, il pensait que l'inconscient, le sujet et son inconscient faisaient chaîne.
Mmh.
Et il faut qu'il en soit venu à considérer que l'inconscient, ça ne fait pas chaîne avec le sujet. C'est un savoir qui touche la jouissance directement, qui ne se concerne pas le sujet, et alors du coup ça devient événement de corps, et on a deux événements, on a l'événement sujet, on a l'événement de corps, et c'est tout le problème de savoir comment ils se raccordent. Voilà mes quelques élucubrations immédiates.
Radou, je te donne la main.
Merci Jean-Pierre. Merci à tous les trois. C'est des exposés que j'ai bien appréciés. Pour Lina, j'aurais une question, j'ai bien aimé ton exposé, sur l'affaire de la coalescence. Tu l'as introduite comme une question à laquelle il n'y avait pas une réponse précise. Donc, est-ce que peut-être tu pourrais dire un peu plus sur la coalescence? Enfin, là, j'apprécie beaucoup ce que vient de dire Colette sur cette affaire d'événement, des deux côtés de l'événement. On peut penser que peut-être il y a une sorte de lien entre les deux. Mais la coalescence, là, c'est par rapport à quoi? C'est une question que je me pose par rapport à ton exposé.
Oui, Radu, merci de ta question. En effet, j'ai introduit cette question concernant la coalescence. Pourquoi? Parce que il me semblait important d'évoquer la thèse de Lacan à partir de 1975 concernant la phobie. C'est-à-dire que il faut faire entrer la phobie dans la thèse de la coalescence. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la coalescence, enfin, ce qu'il écrit, c'est la coalescence de la réalité sexuelle et le langage. Donc, cela nous amène à dire que le signifiant jouit. Dans le cas du petit Hans, c'est le cheval jouit. C'est une nouvelle façon qu'il propose de lire la phobie de Hans, où il fait un pas de plus pour expliquer que la symbolisation ne suffit plus, pour dire les choses comme ça. Et donc, il propose cette thèse concernant la coalescence de la réalité sexuelle et le langage. Et à ce moment-là, le signifiant qui a été choisi pour la phobie va être un signifiant joui. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Sur la coalescence? Si on m'entend?
Oui, 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 oui.
Oui.
On t'entend, Colette, oui.
Oui, oui. La coalescence, chez Lacan, c'est impensable comme notion avant le séminaire encore. C'est le séminaire encore où il pose que l'élément formel du langage n'est pas hétérogène à la jouissance. Jusque-là, au fond, quel était le rapport entre les signifiants du langage et la substance jouissante? On pouvait dire que les signifiants fixaient de la jouissance. Ça, oui, c'était déjà là. On pouvait dire que les signifiants creusaient un trou dans la jouissance, qu'ils la morcelaient, qu'ils la fragmentaient. Bon, tout ça, c'est les thèses classiques de Lacan. Arrive le séminaire encore où il nous dit: c'est fini cette opposition. Le signifiant est un objet à jouir comme tous les objets du monde. Donc ça, la thèse de encore, elle est très importante. Et du coup, ça veut dire que l'opposition entre... Ça bouge aussi l'idée d'un sujet insubstantiel d'un côté et d'un corps substance de jouissance. Parce que si le « je pense » se jouit, il le formule comme ça, il reformule tout dans ces termes. Le cogito, la pensée, quand on pense, on jouit. C'est de la jouissance, la pensée. ça veut dire que la jouissance, elle est sur tout le terrain. Elle n'est pas seulement dans le corps. Donc, il y a des événements de corps, ça n'empêche pas, on parlait des événements de corps. Mais la coalescence, ça veut dire que la jouissance est le signifiant. C'est tout un. C'était deux jusque-là et c'est tout un désormais. Et donc, c'est une thèse forte et qui demande de repenser pratiquement tout. Et dans la conférence de Genève, finalement, il repense la phobie. Il repense la phobie parce que dans la phobie, on avait l'idée, il y avait l'érection. Alors ça, on était tranquille, c'était vraiment de la jouissance corporelle. Et puis, il y avait le cheval, le signifiant cheval. Et on se disait, voilà, ça symbolise. Et Lacan, au début, il a pris cette voie. Hein, dans le séminaire 4, il parle de la métaphore du cheval. Hein, comme si le signifiant venait symboliser, etc. Et finalement, à la fin, ben non, le cheval, il jouit pas seulement de son organe, il jouit du cheval. Et de tous les dérivés du cheval comme signifiant. Ce signifiant piaffant, comme dit Lacan. Ben, je ne sais pas si ça vous éclaire, mais enfin, c'est quand même comme ça que Lacan arrive à cette notion de coalescence. Et il y a une phrase sur laquelle j'attire votre attention, qui mérite, elle est très peu commentée. Moi-même, je ne l'ai pas beaucoup commenté, mais je l'ai souligné dans Encore. Parlant du sujet de la relation à ces objets, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la réciprocité entre le sujet et l'objet est totale. C'est fait de jouissance de parole et de parole jouissante. Alors ça, c'est une thèse énorme qui renverse tout ce qu'il a dit jusque-là, dissymétrie du sujet et de l'objet. Et là, il nous dit non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben non, mais il y a mon téléphone qui se met à parler tout seul. Bon, voilà donc.
Ce qu'il dit ?
Il parlait de la symétrie et de la symétrie, c'est l'inverse. Bon, voilà, c'était quelques mots sur la coalescence qui me paraît vraiment. C'est pas juste un mot, hein. C'est pas juste un mot, c'est toute la construction de base qui bouge. Et quant à la fin, ce que citait Marc quand il dit l'inconscient c'est fait de mots, c'est des mots jouis. Hein. C'est pas des mots qui désignent la jouissance. C'est des mots qui condensent de la jouissance.
Ah, Maria Velissaropoulos demande la parole, je lui donne. Elle peut peut-être la prendre elle-même.
Oui, voilà. Est-ce qu'on oui. m'entend ?
Très bien. Parfaitement.
On ne vous voit pas, mais vous entendez.
Ah non, mais oh, c'est difficile de me voir. Enfin, j'ai des problèmes techniques. je vais essayer de me faire voir quand même, si je peux. J'essaye. Bon, voilà. Est-ce qu'on me voit ? J'ai ouvert ma vidéo. Enfin, peu importe. On ne va pas perdre du temps à ça.
Allez-y.
Et c'était par rapport à ce que disait Marc concernant le proto, enfin je vais le dire en grec, je ne peux pas le dire autrement, le proto-psevdos, le premier mensonge, où ça m'embrouille un petit peu depuis toujours. Est-ce que ce premier mensonge a à voir avec... lorsque Freud disait que ce n'est pas certain qu'il y ait eu, par exemple, qu'il y ait eu ce que fantasmait ce que fantasmait le patient ou la patiente, enfin, qui disait qu'il ou elle a été, disons, entre guillemets, violé. Et où ça a été une histoire pas possible avec tous les autres, enfin, les post-freudiens, qui disaient, est-ce que c'était du vrai, est-ce que c'était pas du vrai. Et c'est là où je me demande si le premier mensonge qui a à voir avec, justement, le signifiant. Il n'y a pas de premier mensonge sans signifiant. C'est une question que je voulais poser comme ça, et surtout à Colette Soler, comment ça se goupille. Je ne veux pas aller plus loin, mais simplement, le proton pseudos, donc premier mensonge, parce que c'est ça que ça veut dire, proton pseudos, avec là où le signifiant se met à avoir un rapport avec la jouissance.
Avant que Colette ne satisfasse la demande de Maria, juste un mot factuel, le proton pseudos dans l'esquisse à propos du cas Emma, c'est l'histoire qu'elle se raconte sur la cause de son symptôme, de sa phobie d'entrer dans les magasins. Elle croit que ça remonte à 12 ans et elle se ment. Elle se ment parce que ça remonte à ses 8 ans. Mais ce qui est fascinant à suivre, c'est l'évolution à la fois de l'auto-analyse de Freud et de son élaboration théorique. C'est-à-dire que cette histoire avec Fliss amène quand même un bordel innommable. Elle est massacrée quand même, la petite Emma. Et là-dessus, Freud s'interroge sur son histoire de la prairie. Il laisse de côté complètement l'agressivité, la violence quand même des deux gamins qui déflorent la gamine dans les champs, au milieu des pissenlits. Et c'est enfin seulement avec le premier souvenir que c'est lui qui est en cause. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette dimension d'innocence. Là, il n'y a plus de mensonge. Là, c'est lui qui est le sale gosse qui veut à tout prix satisfaction.
Et excuse-moi, Marc, mais tu as dit justement que c'est quelque chose qui de l'innocence qui fait revenir la mémoire.
J'ai dit ça?
Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, peut-être.
Ah, c'est pour innocence, c'est Freud. Il dit c'est pour s'innocenter.
Ah
Freud,
oui.
Freud fabrique le souvenir de la maison de la prairie en 3 temps, à 17, 20 et jeune adulte. Et le souvenir n'apparaît définitivement qu'après ses promenades jeune adulte dans les Alpes. C'est là que le souvenir se cristallise. Mais c'est une coalescence, le mot figure dans la traduction, c'est une coalescence des époques qui servent à rejeter, à représenter les fantasmes de satisfaction érotique et financière dans le jeune âge. Parce que dans le jeune âge, évidemment, les jeux dans la prairie sont des jeux innocents. La question de... Il le dit, Freud. Les enfants sont innocents encore. Et il faut attendre le dernier souvenir écran pour que l'enfant cesse complètement d'être innocent.
Sauf que le scandale freudien, ça vient été le sexuel chez l'enfant, quand même.
Et pas le sexuel infligé par l'autre. Colette, tu as été interpellée.
Ça veut dire qu'au fond, les souvenirs servent le refoulement. Servent le « je n'en veux rien savoir
hein, ». C'est ce que Freud…
Ben, il est l'inventeur de l'affaire, n'oublions pas. Et donc, il ne sait pas d'entrée. Nous, on peut se dire qu'on le sait déjà, parce qu'il nous l'a appris, Lacan l'a répété, nos analyses nous l'ont réappris, etc. Mais Freud, qui est l'inventeur, évidemment, il ne le sait pas tout de suite.
Qui est fascinant.
Oui, tu nous as retracé le chemin formidable par lequel, malgré les ruses du « je ne veux pas savoir, rien de savoir de tout ça », il finit quand même par y arriver, à savoir un petit quelque chose. Donc, c'est pas mal.
Ça fait penser à ce que dit Lacan, le désir qu'il a suivi contre son gré.
Oui, oui.
Suivi contre son gré, c'était quand même de vivre le parfait amour avec fils au départ. À propos d'Emma.
Ça irait un peu vite quand même là.
Ils y vont fort quand même tous les deux. Et puis après, ça se répète effectivement avec Jung, avec Ferenczi. Et après ça, Freud refuse absolument toute relation passionnelle avec un de ses élèves. Il s'intéresse plus à Lou, Andreas.
Avant de passer la main de Touchon...
Je vais fermer mon micro parce qu'il y a les chiens qui aboient. Excusez-moi. Je ne veux pas vous embêter.
Je supprime le micro. Oui, avant de passer la main à... j'ai perdu, à Dominique Touchon. Je voudrais lire quelque chose que nous dit Muriel Mosconi par écrit. Elle cite l'insu, c'est, etc., du 15 mars 77.
Oui. Est-ce c'est la,
mais ça
c'est
pas
la leçon. La...
Hein?
C'est la leçon qui suit Bruxelles.
Hein? L'escroquerie, mais ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une escroquerie qui tombe juste par rapport à ce qu'est le signifiant. Donc, quand même, qui effectivement montre que la psychanalyse lacanienne dépasse la psychanalyse du blabla, de la reconstitution historique, des souvenirs surajoutés les uns par rapport aux autres. Hein. C'était une question...
Oui, mais pourquoi dire que c'est une escroquerie ? Le fait que l'inconscient ne soit constitué que de signifiants, que de mots, et qu'on travaille avec des mots, pourquoi qualifier cela d'escroquerie ? Ça veut dire, quand on dit c'est une escroquerie, ça veut dire que ce que l'on fait ne correspond pas à ce que l'autre attend, ne correspond pas à ce pourquoi il paye. C'est ça que ça veut dire, quand même, une escroquerie, en langue française.
Qu'on fait passer une chose pour une autre.
Oui, alors...
Non, si
on compare avec la poésie escroquerie, oui, parce que alors pourquoi la poésie serait une escroquerie ? Peut-être parce qu'on s'attend à ce que le langage ait un usage purement utilitaire ou de communication utilitaire et que la poésie s'en sert pour dire autre chose. Peut-être. Mmh. Ce serait un usage déjà un peu tordu du mot escroquerie pour la poésie. Alors, pour la psychanalyse... il faut chercher pourquoi il a employé ce mot, parce qu'il l'a fait sciemment, c'est certain, il ne l'a pas improvisé. Qu'est-ce qu'il cherchait avec ce terme ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'on ne peut pas le prendre comme une évidence. Ah, il a dit ça, donc c'est ça. Bon. Toutes les raisons qu'il donne pour dire c'est une escroquerie me paraissent insuffisantes pour justifier l'usage du mot escroquerie. C'est ça qui me... Tu as une idée, Marc, là-dessus ?
Je n'ai comme idée que son texte, et il parle de l'escroquerie à deux propos, à propos de la théorie, les boursouflures théoriques, chiquet, et il parle de l'escroquerie à propos de la pratique. Notre pratique est une escroquerie. Du moins considéré à partir du moment où nous partons du point de vue du réel de la science, etc.
Ah oui, d'accord. Donc,
oui, d'accord. Mais escroquerie, c'est clairement par rapport à toutes les élucubrations de sens, toutes les élucubrations mythiques qui sont faites au nom de la psychanalyse, il me semble, dans ce texte. Alors, évidemment, Muriel a raison. Merci de ce... Il ne s'agit pas, et Lacan ne l'a pas fait. Il continue à dire qu'il s'étouffe avec ses nœuds. Mais quand même, je vous recommande de lire cette conférence, vous la trouverez facilement sur Internet. C'est d'un style absolument coruscant. Il va au vitriol, là. Il renverse tout. Et c'est brutal, sa façon de parler. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire « la psychanalyse est une escroquerie, on ferme nos ordinateurs et on va tous se coucher ». Lacan n'a pas dit ça. Mais il pose la question du fait qu'il faut passer par le sens, il faut, me semble-t-il, c'est comme ça que je comprends, il faut passer par le sens, par effectivement l'analyse des souvenirs écrans, le repérage des signifiants clés qui rebondissent, se transforment d'un souvenir écran à l'autre, jusqu'au moment où effectivement le sujet se... comment dire, se reconnaît son poème dans les signifiants qui se retrouvent et qui guident sa vie.
Je crois que ce que tu viens de citer, oui. Le complément de sa phrase, éclaire quelque chose. C'est une escroquerie par rapport au point de fuite du réel de la science. C'est-à-dire, ça veut dire... Alors là, on comprend aussi que la poésie est aussi une escroquerie par rapport à ça. À savoir que la science, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, ses incertitudes et ses bavassements, la science, quand même, elle arrive à assurer du réel, et du réel qui se traduit en plus en technique, bon, et que la psychanalyse et la poésie ne peuvent pas assurer un réel équivalent. C'est aussi, n'oublions pas que Lacan a quand même développé pendant des années l'idée de la psychanalyse comme science. Elle est liée à la science, elle en vient, mais elle n'est pas science, il en est venu là, et elle est une escroquerie par rapport à son incapacité, son impuissance, son impossible même. L'impossibilité où elle est d'avérer du réel comme le fait la science. Alors ça, pour moi, ça... C'est clair. C'est un point plus clair. Ça justifier davantage le mot escroquerie.
Il faudra relire de près cette conférence, mais c'est juste, c'est un des versants de ce qu'il dit de l'escroquerie, mais ce n'est pas le seul. Parce que on lui pose une question, escroquerie et proton pseudos, c'est le passage que j'ai cité. Escroquerie et proton pseudos, c'est la même chose. Et encore une fois, il n'y a pas de phrase où il le dit exactement, mais tout son texte le dit, il y en a certainement une, c'est quand même tout ce qui relève du sens, de l'enchaînement, de la chaîne finalement, est équivalent à une escroquerie pour lui, parce que le réel n'est pas dans le sens, pas dans la chaîne. Et on est obligé de passer par la chaîne dans notre pratique, obligé.
Je passe ce que j'allais dire parce qu'il y a plusieurs demandes. Dominique, vous avez le micro.
Oui, bonjour, bonsoir. Je voudrais revenir à la question de l'origine. Donc Marc, tu dis que l'événement de corps est toujours premier au sens mathématique, c'est-à-dire identique à du 1 ou identique à lui-même. Je trouvais que c'était joliment dit. Et si tu pouvais en dire un peu plus. Mais j'ai entendu que tu mettais en question le problème de l'origine. Et il y a bien un moment où ça fait un. Il y a bien un moment où ça commence à faire du un. Donc, je voudrais que tu en parles un peu plus. Enfin, il y a un moment où l'original et l'originel se produisent ensemble. Et du coup, je voudrais demander à Brigitte Attat si j'ai beaucoup apprécié aussi votre manière de dire, et si on peut parler d'un moment de passage entre la trace et le dire, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Qu'est-ce que vous pouvez en dire en fait? Voilà.
Brigitte, tu réponds peut-être. Tu veux bien?
Oui. Alors, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question, mais Lacan va reprendre à un moment donné du côté du dire en disant. Alors, c'est pas forcément le indire. Hein, c'est pas le indire. Tel qu'il va l'aborder avec la notion de symptôme. Mais par contre, il parle du condise en disant que ça a des effets d'écriture. Donc, c'est l'insistance, enfin le tracé de ce qui se répète du fait qu'on dise, ce n'est pas les dits, Hein, mais bien entendu que pour qu'il y ait du condise, il y a forcément des dits, que ça va forcément charrier des dits. Hein, et c'est dans cette insistance du condise que quelque chose s'écrit. Et je pense que Lacan, à partir du moment où il se pose la question de l'écriture, c'est bien aussi parce qu'il se pose la question du lisible. C'est un petit peu ce que j'ai travaillé à travers le texte de Camon. Je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans cette embrouille de tout le récit, avec le blabla, etc., toute cette vérité menteuse, quelque chose quand même apparaît comme laissant des traces, et des traces vraiment lisibles. Ça ne veut pas dire que ça a du sens. Hein, mais quelque chose apparaît comme laissant des traces lisibles. Alors, pour passer de la trace, je crois que moi, je la différencierais de la marque. Alors, peut-être que c'est difficile puisqu'on a parlé des événements de corps, premier événement de corps. Je ne sais pas trop d'ailleurs si on peut dire premier puisque c'est toujours dans l'après-coup qu'on va dire que quelque chose est. Mais quand Lacan a repris la répétition, il a bien noté comme premier temps le temps de la marque, mais quelque chose qui n'est pas du signifiant. C'est le fameux trait unaire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la jouissance, hein, et qui ne vient pas de l'autre. C'est quelque chose qu'il a repris avec la trace laissée dans la substance jouissante, on va dire. Et ensuite, il y a les deux autres temps de la répétition où effectivement il va y avoir réitération de la marque, mais avec entre les deux quelque chose qui va être perdu. Et c'est pour ça qu'il va dire que la répétition commence à 3. Alors on peut dire que là aussi c'est intéressant de voir que le temps premier de la répétition, ça commence à 3, puisque c'est au moment où le troisième temps va répéter. La différence qui s'est inscrite entre le temps 1 et le temps 2, et puis aussi répéter la perte, hein, puisque ce qui se répète dans la répétition, c'est la perte.
Je prends le relais.
Si tu veux, oui, mais il y avait Muriel, à moins que tu...
Non, mais la question de Dominique.
Vas-y d'abord,
oui. Oui, alors Freud effectivement croyait à la régression jusqu'à la levée de l'amnésie infantile, et comme je l'ai, j'espère, montré, il s'en explique pour son propre cas, à partir de ses souvenirs écrans et en particulier du premier. Cela dit, dans ce premier souvenir écran, tout est déjà noué et on ne peut pas dégager un tout seul, un premier qui serait disjoint du nouage des trois dimensions de l'événement de corps. Donc c'est pour ça que l'idée d'un moment inaugural traumatique, d'un premier à la fois originel et original, comme tu dis, c'est une idée, c'est l'impossible. Il est impossible de le saisir. De saisir les signifiants qui constituent, qui sont la trace de ces moments, mais le moment lui-même, l'un qui n'est pas encore divisé en trois avec la représentation, c'est une idée, je ne veux pas dire que c'est une idée folle, mais l'idée de l'origine est toujours un peu une idée folle. Et je reviens à ce texte sur lequel j'espère vous allez tous vous jeter dès qu'on aura fini, là, bientôt. Lacan, première remarque pour Pinailler et Colette, j'ai vérifié, je ne me souvenais pas que Lacan parlait de poésie dans ce texte, en tout cas dans la transcription que j'en ai,
dans
ma version. Pardon ?
C'est dans l'insu la poésie.
Dans l'insu, mais pas à Bruxelles. À Bruxelles, le mot n'y figure pas. En revanche, ce que Lacan attaque vraiment avec virulence, pour reprendre la discussion de tout à l'heure, de l'escroquerie, c'est, je l'ai cité déjà, mais je reprends, l'idée de représentation inconsciente est une chose folle. Et c'est comme ça que Freud l'aborde. Il y a chez Lacan, dans cette conférence, il faudrait voir ça de beaucoup plus près, parce que quand même, il a passé sa vie à reprendre ça, à répéter sa phrase, le signifiant représente le sujet, etc. Et là, l'idée de représentation l'idée de représentation inconsciente est une chose folle. Il faudrait voir ce que Lacan veut dire. Et pour vraiment vous donner envie de vous jeter sur ce texte, je vous lis, après je m'arrête, un passage où Lacan pose une autre question, un peu à côté de notre discussion. Lacan demande, Lacan dit, il s'agit de savoir si oui ou non Freud est un événement. Lacan ne dit pas un événement de corps, là il dit un événement historique. Et il continue, Freud n'est pas un événement historique. Je crois qu'il a raté son coup tout comme moi. Dans très peu de temps, tout le monde s'en foutra de la psychanalyse. Et là, il y a ce passage, il se démontre là quelque chose. Il est clair que l'homme passe son temps à rêver et qu'il ne se réveille jamais. Nous le savons quand même, nous autres psychanalystes, à savoir ce que nous fournissent les patients, ils ne nous fournissent que leurs rêves. Voilà.
Muriel.
Bon, alors donc par rapport à cette histoire d'escroquerie, effectivement, Lacan enchaîne sur la question de la duplicité du signifiant et sur la question du sens.
Et ça c'est dans le séminaire, Muriel. C'est dans le séminaire.
C'est ça.
Le succès, oui.
Je dis enchaîne par rapport à la citation que j'ai donnée. C'est une escroquerie qui tombe juste par rapport à ce qu'est le signifiant. Mmh. Et c'est pour ça que la poésie vient dans la série. Il met ensuite la philosophie, d'ailleurs. Mais d'une autre manière. Et bon, par rapport au proton pseudos, j'ai plus en tête la lecture qu'en fait Lacan dans l'éthique. C'est-à-dire que c'est ce qui ne s'est pas passé dans la scène de 8 ans qui est interprété après coup dans la scène de 13 ans par la décharge sexuelle, comme écrit Freud sur son schéma, enfin par la signification phallique, dirions-nous. Donc, disons que la première expérience de corps, selon Freud, lue par Lacan dans l'éthique, c'est la scène de 13 ans. Et justement, Lacan souligne le fait que dans la scène de 8 ans, celle avec l'épicier, le barbon, etc., qui met sa main sur son sexe, là, c'est un blanc. Dans le schéma du mécanisme qu'écrit Freud, il y a un blanc. Lacan parle de la chose, justement, à ce propos. C'est une scène de mensonge, enfin les deux scènes donnent un mensonge sur la chose, mais c'est la seule manière de parler de la chose. Enfin voilà, c'est en tout cas, encore une fois, c'est la scène telle que Lacan la lit dans l'éthique. Alors j'aimerais entendre ce qu'en disaient deux intervenants qui ont parlé du proton pseudos ou d'autres. Parce que là, justement, là, encore une fois, l'expérience de corps, elle est à 13 ans, dans le mythe du premier mensonge.
Lina, tu réponds, s'il te plaît.
Alors, vas-y.
Lina Vélez est là?
Oui, je suis là. Il me semble que cette discussion autour du proton pseudos est une discussion qui renvoie au statut que Freud voulait donner au mensonge, aux symptômes en tant que mensonge. Oui, et puis ensuite, nous allons vers l'autre possibilité, comme quoi est-ce que ces mensonges est-il nécessaire? Il faut-il passer par là? Ces mensonges font partie du travail analytique en tant que tel pour pouvoir.
C'est un mensonge parce que, encore une fois, l'interprétation de la scène de 13 ans, l'interprétation qu'est la scène de 13 ans selon Lacan lisant Freud, est une interprétation à côté par rapport à ce qui ne s'est pas passé, comme le dit Freud, enfin non, comme le dit Lacan lisant Freud, à ce qui ne s'est pas passé dans la scène de 8 ans. C'est-à-dire, grosso modo, dans la scène de 8 ans, on aurait la chose, et dans la scène de 13 ans, on a l'interprétation phallique. Et c'est un mensonge, mais c'est un mensonge nécessaire. Ça a effectivement la même structure que la vérité menteuse. C'est comme ça que Lacan le lit dans l'éthique. Enfin,
bon. Oui, Lina?
Non. Ah ben rien. Enfin, rien et tout. C'est-à-dire que justement, ça va avec la notion d'escroquerie nécessaire, l'escroquerie liée au signifiant. Ça va. Et encore une fois, l'événement de corps, il y a d'une certaine manière. Là,
non, mais même.
C'est comme s'il fallait un non-événement de corps au départ, dans le mythe, hein, un non-événement de corps qui est interprété ensuite par un événement de corps. Si tu vois ce que je veux dire.
Non, encore mais une même fois,
dans la manière dont Lacan le lit dans l'éthique.
Même Freud, à un moment, dit que, plus tardivement, que l'événement lui-même, on ne le retrouve pas. On retrouve, il n'y a que les traces mnésiques qui en restent. Donc, la question oui. du réel de l'événement. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est la façon dont le même cas clinique, les mêmes éléments cliniques, sont lus différemment suivant les temps d'évolution de la théorie. Alors, il y a un mensonge quand même qui est celui de Freud dans le cas Emma dans l'esquisse. Freud sait très bien que cette gamine, c'est une dame maintenant, il le dit, une dame qui sait s'habiller et qui n'a plus à craindre qu'on se moque de ses tenues. Mais enfin, il sait par son analyse qu'elle s'est joyeusement masturbée quand elle était gamine. Et dans l'observation clinique, à cause de ses propres limites, je crois qu'il n'y a pas d'autre explication, le souvenir est fait pour l'innocenter. L'événement de corps.
La scène de 8 ans, elle est innocente. C'est bien
la
ça.
Scène de 8 ans est innocente, alors qu'elle y retourne. Et Freud n'interroge pas du tout ça. Il glisse là-dessus.
Elle ne va pas dans la même boutique. Ce sont deux boutiques différentes.
Non, non, elle retourne voir le barbant.
Ah bon?
Elle y retourne une fois et coupable n'y va plus. Et période de latence, et à 12 ans, là, ça recommence à chauffer, et elle tombe sur le commis qui l'excite sexuellement. Et oui, c'est oui. là que la phobie s'installe. Mais Freud sait très bien qu'elle n'est pas innocente, même pas à 8 ans. Il le sait.
Oui, c'est pour ça que c'est un mythe. C'est un mythe. Le proton pseudos, d'une certaine manière.
Ben, pourquoi
lui donner un statut de mythe?
C'est un mythe parce que c'est exactement ce que dit Marc. C'est un mécanisme tel que... Emma elle-même, elle n'était pas innocente à 8 ans, mais le mécanisme tel que Freud le propose, et surtout tel que Lacan le lit, il dit que c'est ce qui ne s'est pas passé dans la scène 2, c'est-à-dire à 8 ans, qui est interprété par la scène 1. Et que ce qui ne s'est pas passé dans la scène 2 ne peut être dit que sous la couverture du mensonge de la scène 1 de 13 ans qui donne le symptôme. Mais c'est un mythe, bien sûr que évidemment elle n'était pas innocente à l'âge de 8 ans et bien sûr qu'il s'est passé des choses à l'âge de 8 ans. Mais dans la manière dont Lacan lit cette scène, encore une fois, c'est un mythe. Elle est
en 1960 quand même. C'est très tardif, enfin c'est vieux pour nous. L'éthique, c'est 1960.
Et oui, mais
il y a quand même un saut. Il y a un saut entre l'éthique et le signifiant jouissance dont nous a parlé Colette.
Oui, bien sûr.
Avec.
Je dis pas le contraire.
Un saut
énorme.
Je
dis pas le contraire. Mais pour expliquer pourquoi premier mensonge. Enfin, Lacan lit premier mensonge. Le mensonge, il est dans la scène 1, c'est-à-dire quand elle a 13 ans. C'est un mensonge qui couvre rien. C'est ce que dit, voilà. En tout cas, lecture de l'éthique. Hein. Mais premièrement, voilà.
Ok.
Voilà, c'est tout. Et ça va avec l'escroquerie du signifiant.
Je vois que Franck Ancel a mis dans Conversation, si vous allez sur Converser, vous avez le lien avec la conférence de Bruxelles.
La conférence de Lacan.
à Bruxelles, ce qui va vous permettre, ça ne va pas vous aider à dormir, ça
alors,
c'est sûr.
Alors, je voudrais dire quelque chose. Je trouve que notre conversation actuelle prouve à quel point Lacan a raison quand il dit « la psychanalyse est une escroquerie », au sens où elle est incapable, la psychanalyse, de faire ce que la science fait, assurer un savoir dans le réel. Et tout cela, ce sont des élucubrations. Donc, on ne peut pas convoquer la lecture de l'éthique contre lecture de Freud, contre... Ce sont des lectures. Eh bien, donc, tout notre problème, c'est avec des signifiants menteurs par rapport au réel, éventuellement, des représentations, pas la représentation signifiante, mais la représentation au sens d'avoir des représentations mentales. Les représentations, les signifiants, tout ça rend très difficile d'assurer pour un cas donné le sien propre, le noyau le plus réel de tout ça. Et donc, on y arrive quand même, malgré tout. On arrive à quelque chose au cas par cas. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce que l'on en dit en général, vous voyez, on a un petit cas et on a 36 interprétations possibles, 36 lectures. Alors,
ça ne veut pas dire qu'elles se valent toutes.
Je ne te dis pas qu'elles se valent toutes. Et encore, ça dépend qui les évalue. Qui les évalue ? Est-ce que c'est l'usager ? Est-ce que si Emma était là pour les lire, elle dirait qu'elle est la bonne ?
Elle a été. Vous savez qu'Emma a été psychanalyste un temps.
Ah,
elle est devenue psychanalyste.
Je ne savais pas.
Et elle a fait un livre. Elle est restée dans l'histoire de la psychanalyse pour un petit livre qu'elle a fait sur les explications sexuelles à donner aux enfants.
Ah, c'est d'avant-garde. Bon. Vous savez qu'il est 11h10, hein?
Ben, on est bien ensemble. C'est formidable. On est au chaud. Allez, on va s'arrêter. C'est Jean-Pierre qui...
Oh, j'aurais voulu souligner quelque chose dans l'exposé de Lina. On ne peut pas tout dire quand on discute, mais j'ai bien apprécié que Lina souligne qu'il y a deux types de traumatismes, ou peut-être plus d'ailleurs, mais elle en a distingué deux. Le trauma à l'endroit de l'autre, grand A, et le trauma à l'endroit de l'événement de corps, et ce n'est pas le même. Et on n'a pas relevé ça dans la discussion, mais c'était intéressant.
Et, on n'a pas le temps, mais... Dans quelle catégorie vous rangeriez toutes les deux le barbon qui se livre à ses attouchements ? Trauma du corps ou trauma du côté de l'autre ?
Trauma de corps. Trauma de corps. Parce qu'elle n'avait pas de demande à l'égard du barbon.
Non seulement elle n'avait pas de demande, mais elle ne s'y attendait pas.
Oui, voilà.
À ce que le patron fasse ça.
L'autre, c'est celui à qui on demande.
C'est aussi celui qui désire.
Oui, aussi, bien sûr. Mais...
Et qui a un rictus. Bon, c'était pas tant.
Oui, ça se discute, oui.
Jean-Pierre, tu nous libères? T'as coupé ton micro, Jean-Pierre. T'as coupé ton micro.
Oui, je disais que je vais effectivement vous libérer avec des regrets parce que par rapport à Lina et à Brigitte, c'est vrai qu'on s'est embarqué complètement sur l'exposé et les questions posées par Marc. Et
je suis désolé.
On revient une autre fois. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de questions posées. C'est très riche leurs exposés aussi.
Bon, et j'espère ne pas m'être conduit comme Freud dans la prairie, quand même.
Tu aimerais bien.
Oui, oui.
À l'occasion.
Mais c'est elles qui sont deux cette fois. Ce n'est pas deux garçons contre. Bon, allez. Bonne nuit à tout le monde.
La blague, elle est libre.
Salut à tous. Bon, merci.
Au revoir. Je vous libère, je fais fin.